Chapitre 5e. Berthe avait beaucoup souffert de cette rupture. Elle n'épargna donc rien pour ramener Jean, mais en l'essayant, elle marquait les limites qu'elle voulait ne jamais dépasser. Jean se soumit de bonne foi, mais en cela, comme en beaucoup d'autres choses, l'intention alla plus loin que le fait. Le premier jour où il vit Berthe au bras de M. de Puiseux, le courage lui manqua. Il renonça à la voir et s'enfonça dans les bois. La solitude l'aigrit bientôt. À force de repasser dans sa mémoire les paroles de Berthe, il arriva à ne plus y croire. Il lui paraissait impossible que M. de Gaillefontaine eût exigé le mariage de sa fille si elle ne l'y avait pas aidé un peu. Mais peut-être même lui en devait-il l'idée première. Quand on est seul et malheureux, du doute à la croyance du mal, il n'y a souvent qu'un pas. Au bout d'un mois, Jean avait cette conviction qu'il était la victime des roueries de Madame de Puiseux. 6 mois après le mariage de Berthe, Jean vivait dans un isolement profond. Déjà les gardes-chasse du pays et les gendarmes commençaient à s'occuper de cet intrépide chasseur qui avait depuis longtemps oublié de renouveler son port d'armes et qui battait le pays du matin au soir. Mais Jean avait le pied leste. Il connaissait le pays mieux qu'aucun de ses ennemis. À lui seul, il était plus robuste que trois ensemble, et ce ne devait pas être chose aisée que de le prendre. De tous les habitants de Rocheblanche, M. de Puiseux était celui qui connaissait le moins Jean Guillard. Il l'avait vu quelquefois sans y prendre garde et ne lui avait jamais parlé. Un jour qu'il passait à cheval dans la forêt d'Amboise, M. de Puiseux rencontra au pied d'un arbre une espèce de braconnier qui déjeunait d'un gros morceau de pain et de quelques noix. Un vieux chapeau de paille couvrait le visage de ce drôle qui, les pieds au soleil et le dos contre la mousse, semblait absorbé par l'importance de son occupation. Berthe arrivait au petit galop derrière M. de Puiseux, qui s'était écarté de M. de Gaillefontaine et de quelques personnes qui allaient en partie à Chenonceau. « Eh, mon brave !» dit M. de Puiseux en avisant l'homme aux noix. Le braconnier, soit qu'il n'entendit pas, soit qu'il ne voulut pas entendre, ne remua non plus que le tronc contre lequel il s'appuyait. « Eh, dites donc, camarade !» cria M. de Puiseux d'une voix plus haute. Le braconnier éplucha une noix et la croqua. « Morbleu !» reprit M. de Puiseux, qui n'était pas tout à fait aussi patient qu'un saint. « Je crois que le coquin se moque de moi. Ça, voyons, veux-tu me répondre ?» L'homme aux noix leva la tête cette fois. « Ah, vraiment, c'est fort heureux !» continua le cavalier qui avait poussé son cheval du côté du braconnier. « Laisse là tes noix et cours la ferme. Tu y trouveras 2 voitures et tu diras au cocher de pousser jusqu'à Chenonceau. Sais-tu où la ferme déborde ?»« Parfaitement. » « Cours donc, voilà 100 sous pour ta peine. » M. de Puiseux tira une pièce de 5 francs de sa poche et la jeta au braconnier. « Tu diras au cocher, ajouta-t-il, que tu viens de la part de M. de Puiseux. » La pièce d'argent tomba sur le pantalon de Jean et glissa dans l'herbe. Tout le sang du braconnier lui monta au visage. Il saisit la pièce et la jeta violemment au pied du cheval. L'écu rencontra une pierre, ricocha et frappa au poitrail l'animal qui se cabra. « Insolent !» s'écria M. de Puiseux, qui d'un coup d'éperon força le cheval à se jeter en avant. Mais déjà le braconnier était sur ses pieds. Une pâleur de cadavre avait succédé à sa rougeur fébrile, et les yeux étincelants, il attendait M. de Puiseux. Loup, le poil hérissé, grondait à son côté. Berthe accourut et se jeta entre eux. À sa vue, Jean recula lentement, comme un dogue. Il tenait d'une main son fusil, autour duquel ses doigts semblaient noués, et de l'autre il retenait son chien. Au pied de l'arbre, il s'arrêta. Jean, lui dit tout bas Madame de Puiseux en courant lui, Jean, retirez-vous, je vous en prie. L'accent de cette voix toute puissante, Jean fit 3 pas en arrière. Qu'avez-vous à dire à ce manant ? S'écria M. de Puiseux, que la colère tourmentait, et qui ne pouvait se rendre maître de son cheval, épouvanté par les sourds grondements de loup. Jean fit un pas en avant, mais il rencontra le regard de Berthe, à la fois si triste et si suppliant, que de nouveau il s'arrêta. Ce manant, dit-il d'une voix que la haine faisait trembler, s'en va, parce qu'il y a une femme ici. Mais une autre fois, gardez, s'il vous plaît, vos tutoiements et votre argent pour vos laquais. Berthe s'était rapprochée de son mari, mettant comme par hasard l'un des chevaux en travers de l'autre. Jean jeta son fusil sur son épaule et s'enfonça dans la forêt, suivi de son chien qui montrait ses dents blanches en louvoyant sur les pas de son maître. Voilà un drôle que je châtirai quelque jour. Reprit M. de Puiseux, après qu'il eut réussi à calmer son cheval. « Vous n'en ferez rien, Charles, » répondit Berthe. Ce drôle, comme vous l'appelez, est un fort honnête garçon. Lui ? Mais il a l'air d'un bandit. L'air ne fait rien à la chose. En ce moment, Jean gravissait un tertre à quelque distance. « Mais regardez-le avec son grand diable de chien roux !» reprit M. de Puiseux. « Tout au moins, est-ce un braconnier ?»« Ce braconnier, » dit Berthe en souriant, « est bachelier, est-ce lettre ? N'est-ce pas comme cela que ça se dit ? Il a failli être avocat. C'est Jean Guillard, l'un des fils de Pierre, notre fermier. » À quelque temps de là, les châtelains de Rocheblanche, chez qui plusieurs personnes étaient en villégiature, organisèrent une chasse aux sangliers. Un grand nombre de paysans voulurent prendre part à cette battue, ceux-ci armés de fourches et ceux-là de bâtons. Les châtelains du voisinage accoururent avec leurs équipages de chasse. On distribua des pelotons de batteurs qui avaient pour mission de parcourir la forêt, et l'on partit. Il faisait un temps clair et vif. Une petite gelée blanche glaçait l'herbe des champs. Quand on toucha la lisière du bois, les chiens furent découplés, les cavaliers entrèrent sous le couvert et la chasse commença. Au bout d'un quart d'heure, la forêt retentissait d'aboiements furieux et de cris. Monsieur de Gaillefontaine, monsieur et madame de Puiseux suivaient la chasse. Monsieur de Puiseux, ardent à cet exercice, montait un jeune cheval plein de feu que tout ce tumulte animait encore. Quelque temps il resta près de sa femme, mais emporté lui-même par son impatience, il rendit la bride à son cheval. « Veillez sur Berthe » cria-t-il à monsieur de Gaillefontaine, et il partit comme une flèche. La chasse avait fait lever déjà plus de 10 bêtes, sangliers ou marcassins. À mesure que les animaux poursuivis passaient devant les chasseurs postés au bord des routes et des sentiers, on entendait des coups de fusil suivis d'aboiements redoublés. Les braconniers d'Amboise avaient pris leur part de cette chasse, sûrs qu'ils étaient de n'être pas inquiétés aussi longtemps qu'elle durerait. Jean se trouvait parmi eux. Depuis qu'il partageait la vie et les dangers de ces hommes sauvages et grossiers, Jean avait acquis une adresse merveilleuse au fusil. Aucun de ses compagnons ne pouvait rivaliser avec lui, et tous le reconnaissaient tacitement pour leur chef. Jamais Jean ne tirait les chevreuils qu'en pleine course et à balle, et encore ne visait-il qu'à la tête. Cette adresse, unie à une force prodigieuse, l'avait rendu fameux dans le pays. Au temps de la jacquerie, Jean eût été désigné par la voie publique pour être l'un des capitaines de la révolte. Deux ou trois fois, Jean avait été croisé par madame de Puiseux, mais s'ils s'étaient vus l'un et l'autre, du moins avait-il évité de se regarder. Il y avait déjà 2 ou 3 heures que la chasse continuait, lorsque monsieur de Puiseux, en traversant au galop une clairière, tomba au milieu d'une bande de marcassins qui fuyaient devant une meute. La laie, écumante et furieuse, passa devant le cheval, courant en droite ligne comme un boulet. M. de Puiseux la coucha en joue et tira. La bête, frappée en plein corps, tomba sur ses jarrets. 2 ou 3 chiens arrivèrent comme des flèches et la coiffèrent. La laie se releva, secoua son rude groin, laissa un lambeau de ses oreilles entre les dents des chiens, en éventra un, et toute sanglante, vint s'abattre au pied du cheval. Les grognements de la bête enragée, les hurlements des limiers qui l'attaquaient, ce dos monstrueux qui montait et s'abaissait comme une vague, épouvantèrent le cheval qui s'emporta. Monsieur de Puiseux eut assez de présence d'esprit pour le pousser dans une avenue au bout de laquelle s'ouvrait une terre labourée. Mais le cheval n'avait pas fait 500 pas dans cette direction que l'arrivée d'un sanglier le fit se jeter de côté et prendre un travers bois. Le cheval courait, le nez au vent, les oreilles dans le cou, fou de terreur. Lancé comme une flèche, le cheval et le cavalier passèrent devant madame de Puiseux. À cette vue, Berthe poussa un cri. L'élan du cheval le conduisit dans une partie de la forêt où de récentes coupes n'avaient laissé debout que des baliveaux espacés de distance en distance. À l'extrémité de cette clairière, le sol s'abaissait brusquement et formait un ravin. Un cheval, poussé à toute vitesse au bord du ravin, devait rouler jusqu'au fond où, parmi des quartiers de pierre, fuyaient les eaux claires d'un ruisseau. Au moment où le cheval entrait dans ce vaste champ égalisé par la hache, Jean passait sur la lisière du bois. Au bruit de cette course précipitée, il tourna la tête et reconnut du même coup d'œil, et M. de Puiseux et le danger qui le menaçait. Jean s'arrêta. Une trop grande distance le séparait du mari de Berthe pour qu'il pût se jeter à la tête du cheval avant qu'il eût atteint le précipice. En 1 minute, le cheval devait toucher au bord du ravin, et Jean, pour si léger qu'il fût à la course, en aurait mis 5 ou 6 à y parvenir. Avec la rapidité de la pensée, Il épaula son fusil. Mais au moment de presser la détente, il hésita. La balle ne pouvait-elle pas frapper M. de Puiseux ? Le fusil se releva. Cependant, le cheval dévorait le terrain. Entre ses pieds et le ravin, il n'y avait plus qu'une centaine de pas. Au bout de cette course insensée, n'était-ce pas la mort qui attendait M. de Puiseux ? Jean n'hésita plus et tira. Le cheval tomba sur ses genoux. Il se releva, pirouetta sur ses pieds de derrière, marcha quelques pas au hasard, trébucha et s'abattit sur le flanc. Dès la première secousse, M. de Puiseux avait roulé par terre à 10 pas du cheval. La violence de cette chute l'étourdit. Il était étendu sur le gazon, sans mouvement, lorsque Berthe parut à l'autre extrémité du champ, suivi par M. de Gaillefontaine qui cherchait à modérer sa course. Le coup de fusil qu'elle entendit lorsqu'elle allait franchir le rideau d'arbres qui la séparait de la clairière la fit se hâter. Elle parut sur la clairière et reconnut son mari couché auprès du cheval. Et à 150 pas sur la droite, Jean, qui courait, son fusil à la main. Un frisson parcourut Berthe des pieds à la tête. Elle se sentit froid dans les os et n'eut même pas la force de pousser un cri. En quelques bonds, elle arriva auprès de son mari, laissant M. de Gaillefontaine en arrière. Jean, qui était arrivé d'un autre côté et plus vite qu'elle, s'arrêta en face de Berthe. Il lut sur son visage l'épouvantable pensée qui avait traversé l'esprit de celle qui, si longtemps, avait été sa meilleure amie. Une douleur sans nom l'atteignit au cœur. Il montra du doigt le trou sanglant que la balle avait fait à la tête du cheval. « Regardez !» lui dit-il. Au même instant, M. de Puiseux poussa un profond soupir, comme un homme assoupi qui se réveille, et se dressa sur son coude. Des larmes vinrent aux yeux de Berthe. Elle sauta de selle et courut à Jean. Mais Jean repoussa la main qu'elle lui tendait, et jetant à Berthe un regard de reproche, il rentra dans la forêt. Cependant, les mois s'écoulaient, et la situation de Jean restait la même. Il était entré dans une voie où rien, si ce n'est une catastrophe, ne pouvait le tirer. Comme tous les cœurs malades et les esprits chagrins, il accusait la société d'un malheur où elle n'était pour rien. Une mélancolie profonde le rongeait, et le levain de la colère se mêlait à cette mélancolie. « Sa pensée m'a tout de suite accusé d'un crime, » disait-il quelquefois au souvenir de la chasse. « Qu'ai-je donc fait pour tomber si bas dans son esprit ?» Tandis que Jean accusait Berthe, Berthe eut tout donné pour ramener Jean. Elle se sentait coupable d'une mauvaise pensée envers lui. Et pour si mince que fût ce crime, il ne laissait pas de troubler une âme aussi sincère. Fille, Madame de Puiseux n'eut pas hésité à se rendre auprès de Jean comme elle l'avait fait une fois déjà. Femme, elle ne croyait pas qu'une telle démarche fût possible à l'insu de son mari. Berthe en était donc réduite à se taire. Elle était mère, d'ailleurs, et cette maternité, qui avait comblé tous les vœux de M. de Gaillefontaine, lui dictait des devoirs plus sacrés. Il arriva, sur ces entrefaites, que les déprédations des braconniers excitèrent les plaintes et les réclamations du pays. Le préfet du département donna ordre de sévir contre eux avec la plus grande rigueur. Les brigades de gendarmerie, tant à pied qu'à cheval, et les gardes champêtres se tinrent prêts à agir au premier signal. Le fermier de Rocheblanche, qui était depuis longues années adjoint au maire de sa petite commune, quitta un matin la ferme et gagna la forêt. Un bûcheron lui indiqua l'endroit où Jean se trouvait, et le fermier, continuant sa route, atteignit son fils dans un taillis. « Jean, lui dit-il, je ne viens pas pour essayer de te tirer de la vie que tu mènes. Dieu m'est témoin, cependant, que le jour où tu rentreras à la ferme sera le plus heureux de ma vie. Mais je viens te prévenir que les braconniers vont être traqués par tout le pays. Je le sais, père, mais je ne vous en remercie pas moins. Il y aura des rixes. Peut-être échangera-t-on des coups de fusil. Tu as le sang vif, mon fils. Prends garde à ce que tu feras si l'on t'arrête. On ne m'arrêtera pas, mon père. Cependant, si ce malheur t'arrivait, comment te conduirais-tu? Ce malheur ne m'arrivera jamais. Tu ne réponds pas à ma question, Jean. Tu peux tomber, et un garde aura bientôt mis la main sur ton épaule. Ah, père, au bout de l'épaule, il y a un bras, et au bout du bras, une main habituée à manier un fusil. Et voilà justement ce que je redoute. Promets-moi, quoi qu'il arrive, que tu ne feras aucun emploi de tes armes. Jean hésita. Si ta mère vivait encore, ta pauvre mère te le demanderait, reprit Pierre Guillard. Je sais que tu as gardé un grand respect pour sa mémoire. Jure-moi en son nom de ne pas te défendre si on t'arrête. C'est en son nom que je t'en prie. C'est bien, mon père, je vous le jure. Le fermier regarda son fils avec des yeux attendris. Puisque tu aimes encore cette pauvre sainte femme, reprit-il, je n'ai pas perdu tout espoir. Ses prières et son souvenir te ramèneront peut-être parmi nous. » Jean baissa la tête. Peut-être au fond du cœur désirait-il cette réunion, mais à la ferme, il eût vu tous les jours Berthe et son mari, et c'est à quoi il ne pouvait se résoudre. « Je te quitte, Jean, » ajouta le père. « Songe à ta sûreté. Moi, je vais donner mes ordres aux gendarmes de la commune. » « Allez, mon père, c'est votre devoir. » Pierre et Jean se quittèrent, et dès le soir même, les gendarmes se mirent en campagne.